Bonjour et bienvenue, c'est Comme un bruit qui court, le magazine de reportage du samedi sur France Inter, une heure d'exploration radiophonique, sociale, politique et artistique aussi.
En direct du studio 611, une émission réalisée par Jérôme Chélius, assistée de Lucille Valérie, avec à la technique aujourd'hui Antoine Gomez.
Au sommaire cette semaine, une même question en deux volets. Quel rapport entre une foire d'art contemporain, assujettie au yo-yo des gros spéculateurs, et une zone humide du Tarn ? Eh bien, l'écosystème de l'un comme de l'autre sont la proie, chacun à sa manière, des caprices du marché et ses irrépressibles envies de croissance dérégulée. Et dans les deux cas, ça fait des dégâts. Car si les polémiques entre marché de l'art et art de marché se poursuivent, l'histoire de la ZAD du Testé est, elle, presque d'une histoire ancienne. Mais depuis 3 ans, un nom manque à l'appel, celui d'un étudiant en botanique de 21 ans, Rémi Fraisse, tué par une grenade offensive des gendarmes mobiles. Entre un hommage et un vernissage, comme un bruit qui court, fait le grand écart entre feu d'artifice et fou d'art factice.
Grenade. Grenade, qui es-tu ? Grenade, que fais-tu ?
Pour toi, Rémi, j'ai porté sur le site là où se tenaient les gendarmes qui ont lancé la grenade qui t'a tué.
Grenade, qui tue ?
Un aquarium avec un petit poisson rouge.
Je trouve que c'est toujours la même chose. Enfin, franchement, c'est pas du marché de l'art ici, c'est de l'art de marché. Vous voyez, ce genre de statue, par exemple, on l'a déjà vu 36 fois, il y a plein d'amateurs qui le font. Voilà.
Dites-moi, monsieur, c'est sérieux la bruit qui court ?
Comme un bruit qui court, cette semaine, des allées pleines d'ébullition de la FIAC, la Foire Internationale d'Art Contemporain, jusqu'à la zone humide du Testé, où Rémi Fraisse trouva la mort, voici tout juste 3 ans, tué sous le coup d'une grenade offensive. Mais avant de s'intéresser au marché de l'art, Thierry, on va commencer par s'intéresser au marché de l'art tout court, ou plutôt à l'art de marché, celui fait sur mesure pour les investisseurs financiers. Voilà, Gives, ce que tu vas nous expliquer, toi qui allais te balader dans ce nouveau sanctuaire du placement financier, la FIAC.
Ouais, j'y suis allé avec le journaliste Jean-Gabriel Fredet, au grand rendez-vous donc de l'art contemporain, ce week-end, où plus de 70 000 personnes se sont pressées pour y sentir la tendance. Et c'est vrai que tous ne regardaient pas la même chose. Pendant que certains admiraient des courbes plastiques, d'autres n'avaient d'yeux que pour les courbes financières. Bienvenue dans le terrain de jeu des spéculateurs, collectionneurs de plus-value. Et pour cause, le marché de l'art contemporain a connu depuis 2000 une croissance de 1400%. Si bien que de plus en plus de voix se demandent si on ne serait pas effectivement passé du marché de l'art à un art de marché.
Et voilà où vont possiblement se retrouver les 45 milliards d'euros de cadeaux fiscaux accordés par le gouvernement aux Français les plus aisés, entre suppression de l'ISF et prélèvement forfaitaire unique. Et pour eux, c'est déjà Noël.
Même si Emmanuel Macron, hier en Guyane, n'était pas d'humeur à déposer des cadeaux dans tous les petits souliers.
Je ne suis pas le Père Noël, parce que les Guyanais ne sont pas des enfants. Je suis là pour dire les choses en vérité telles que je les vois, et aussi assurer les éléments d'autorité indispensables sur ce territoire.
Et oui, pendant que les uns auront de belles ristournes fiscales, d'autres continueront à expérimenter les effets de l'autorité. Comme cet élu guyanais qui lui aussi a fait les frais d'un tir de flashball qui a dérapé. Car après l'art de marché, c'est à l'art du maintien de l'ordre à la française que nous allons nous intéresser. Avec son cortège de blessés, d'éborgnés et de trépassés. Aujourd'hui, ça fait 3 ans que Rémi Fraisse est mort et avec Antoine Chao, on va lui rendre hommage.
Oui, parce que le Père Noël, il est généreux avec certains. Pour les forces de l'ordre, par exemple, le ministère de l'Intérieur a passé commande 1 million de grenades en prévision de la rentrée sociale ou juste pour refaire les stocks bien entamés dernièrement après les manifs contre la loi travail, l'évacuation de la jungle de Calais, les interventions à Notre-Dame-des-Landes, à Bure, à Sivens où justement c'est une grenade offensive qui a tué Rémi Fraisse il y a tout juste 3 ans.
Comme un bruit qui court, décryptage de l'art de marché et hommage à Rémi Fraisse, jusqu'à 17h sur France Inter, du son et du fond, c'est parti, tout de suite, direction la FIAC.
La frontière entre l'art et les affaires est de plus en plus floue.
On commence donc avec ce grand rendez-vous qu'est la FIAC.
Merci. Alors qui achète à la FIAC ?
Spaghetti Man, la tête de Bugs Bunny sur un corps d'homme, muni selon le catalogue de l'exposition d'un pénis de 15 mètres de long évoquant un spaghetti.
J'ai beaucoup aimé.
Alors qui achète à la FIAC ?
Splendide. Les photos d'Oleg Koulik sont pour le moins provocantes. Celles qui ont été saisies à la Foire internationale d'art contemporain ressemblent à celles-ci. L'artiste russe y est représenté dans des positions équivoques avec des animaux. La galeriste qui l'expose depuis 10 ans à Paris n'est pas surprise. Pour elle, Koulik est incompris.
Kulik, en tant qu'artiste, décide d'expérimenter les limites de l'animalité de l'homme.
Le performeur a décidé qu'il est un chef-d'œuvre.
Alors qui achète à la FIAC ?
Guy Vouctil,
Charlotte Perry,
Antoine Chao.
Pour cette sculpture en papier mâché, comptez 450 000 euros.
Hashtag Grenade Bruit.
Est-ce que je peux vous embêter 2 minutes ?
Oui, allez-y. David André Azoulay.
Vous définissez comme collectionneur vous-même ?
Ben, moi, je suis le directeur général du groupe Georges V. Ah, pas du tout, moi je suis un véritable amateur. C'est-à-dire que je n'achète que des œuvres quand j'ai rencontré l'artiste, que j'ai aimé l'artiste et je le vois travailler. Sinon, je n'achète pas. Je n'ai jamais acheté une œuvre à l'aveugle.
Et vous avez beaucoup de tableaux, vous ?
Non, peut-être une centaine.
Ah oui, quand même.
Oh, ouais, mais c'est le plaisir, c'est vraiment du plaisir. Ça. Et là, il n'y a rien, donc c'est très bizarre. C'est une FIAC dans l'air du temps, dirons-nous. On a peur des excès, on a peur de faire des folies. Et là, apparemment, ils se sont un peu endormis. Voilà.
Ici, vous dites que c'est un peu trop mesuré parce que c'est quoi ? C'est formaté sur le marché ?
Oui, je veux dire qu'aujourd'hui, il y a une espèce d'élite qui a décidé qu'un artiste avait du talent et on va le faire mousser un maximum pour essayer effectivement d'en faire une valeur. Quand vous rentrez dans une galerie aujourd'hui, la première des choses qu'on vous dit, ah ben, il y a 5 ans, il valait 10 000 euros, aujourd'hui, il en vaut 100 000, demain, il va valoir 500 000. Vous lui direz très bien qui est l'artiste, qu'est-ce qu'il fait, où est-ce qu'il est né.
On parle d'argent tout de suite.
On parle que d'argent. Alors, c'est une horreur. C'est une horreur. D'avoir l'œuvre, après, bon, l'argent, ça ne vaut que pour ceux qui n'en ont pas. Voilà.
Alors, qui achète à la FIAC ? Ce sont surtout des gens fortunés qui achètent, et notamment des personnalités très en vue dans le monde de l'art. L'année dernière, le patron de LVMH, Bernard Arnault, faisait ses courses pour sa fondation Louis Vuitton. Et au même moment, son grand rival, François Pinault, a fait très fort. Il a acheté 37 œuvres d'art en l'espace d'une matinée à la FIAC.
Regardez cette œuvre magistrale de 5 mètres de haut, signée Takashi Murakami, et recouverte de feuilles d'or, 300 kilos de sculptures estimées à plusieurs millions d'euros.
Si vous et moi, nous prenons un porte-bouteille, jamais personne ne dira que c'est une œuvre d'art et jamais ne le paiera comme tel. C'est parce que Duchamp était déjà artiste, déjà reconnu. Et alors, au fond, c'est pire que jamais. Ces artistes qui font du rien, c'est eux-mêmes qui sont marchandises.
Jean-Gabriel Fredet, bonjour.
Bonjour.
Je vous retrouve pile à l'entrée de la FIAC. Et j'ai votre livre sous le bras.
Formidable.
Requins, caniches et autres mystificateurs. Et en entrée en matière, quand on passe l'entrée pour rentrer sous la grande voûte du Grand Palais, on est accueilli par une œuvre qui pourrait très bien aller en couverture de votre livre.
Oui et non, parce qu'il demanderait probablement un copyright que l'éditeur Albin Michel n'aurait pas forcément les moyens de s'offrir. Nous, on s'est contenté d'un faux Jeff Koons, mais vous avez une fois raison, Murakami, c'est la figure emblématique de cet art contemporain qui est provocateur, qui est une coqueluche de ce qu'on appelle maintenant les spéculecteurs, c'est-à-dire une contraction de collectionneurs et de spéculateurs.
Spéculecteurs.
Spéculecteurs. C'est Saatchi, vous savez, c'est un publicitaire anglais qui avait forgé ce mot et ce concept. Donc, effectivement, on est d'emblée dans le bain. Hein. Alors, qu'est-ce que ça représente ? Qu'est-ce que ça figure ? Parce que vous savez que tous ces braves gens tournent le dos à tout ce qui est figuratif. On est en plein dans les séquelles de la crise de l'apparence, de la représentation. Alors, lui, son univers, c'est l'univers des mangas. Donc c'est un hybride entre Disney et les mangas.
C'est une espèce de colonne tournoyante de flammes dorées.
Absolument,
là, qui monte.
Là. Les gens ils veulent du spectaculaire mais aussi du massif.
C'est de l'or, c'est plaqué or.
Donc c'est un côté clinquant, flashy, ça doit nous réveiller. Voilà, est-ce que c'est un coup de poing dans le plexus ? On peut en discuter éternellement, mais c'est très révélateur de ce qu'on fait en ce moment. Murakami étant le premier, le deuxième ou le troisième, selon les millésimes, de la liste. Ces 10 artistes...
Qui trustent le marché.
Qui trustent le marché, enfin qui sont recherchés par ces fameux spéculateurs. Et leur code atteint des sommets dans les sociétés de vente aux enchères. Alors la liste, tout le monde la connaît, c'est Jeff Koons, c'est Damien Hirst, c'est Takashi Murakami, c'est Peter Doig, c'est Jean-Michel Basquiat, cet artiste rimbaldien qui est mort à 28 ans d'une overdose. Qu'est-ce qu'il y a encore ? Bientôt, il y aura Banksy, le roi du street art.
C'est bien, on est tout de suite rentré de plein pied dans le sujet.
Tout à fait.
Puisque ce que je vous propose, c'est qu'on se balade dans cette FIAC, dans cette grande foire qu'il ne faut pas oublier, mais sans parler d'art, ou pour ainsi dire peu, pour parler de ce qui vous préoccupe, le marché de l'art contemporain.
Tout à fait, on va jeter un coup d'œil quand même chez Perrotin, qui est quand même... on va draguer un peu, là. Je fais confiance, avec le micro, ça marche très fort. Je m'amuse toujours à reconnaître les gens. Celui-là, je ne sais plus qu'est-ce qu'il a, celui-là.
Jean-Gabriel Fredem, dans votre livre, est-ce que ce que vous décrivez bien, c'est à quel point le marché de l'art contemporain a connu une croissance exponentielle, à tel point que c'est la loi du marché qui dicte sa loi des reins à l'art contemporain aujourd'hui?
Oui, mais si vous voulez, comme ça, capitalisme pur et dur, au sens économique du terme, c'est la quintessence du capitalisme, un marché en principe totalement dérégulé. C'est la loi de l'offre et la demande, il n'y a pas de gendarme, il est très opaque, mais on le dit très transparent, et où l'offre doit... c'est la main invisible du marché, quel que soit le niveau des prix, il n'y a rien à dire.
C'est vraiment l'idéologie appliquée.
Tout à fait, c'est la quintessence. Regardez Ribolovlev, cet oligarque est monégasque.
Russe d'origine,
et qui reproche à Yves Bouvier, qui est un courtier transitaire, de lui avoir vendu 2 milliards, ce qui en valait 1.
Et il a acheté quoi d'ailleurs ?
Oh, mais il a acheté des choses très très belles. Il a acheté des Roscoe, il a acheté un magnifique nu couché Modigliani.
Il a acheté 118 millions d'euros.
C'est des sommes absolument invraisemblables. Et Bouvier fondait à lui dire, enfin, c'est en tout cas ce qu'il prétend dans cette arnaque du siècle, que au fond, M. Ribolovlev, qui ne connaissait rien, a acheté le prix qu'il souhaitait pour obtenir des tableaux qui avaient une valeur, la valeur du marché à ce moment-là. Voilà. Évidemment, quand après réflexion, on s'aperçoit que la collection de Ribolovlev, qui est appréciée à 2 milliards, vaut en fait 1 milliard, dès qu'il y a peut-être eu un problème.
L'histoire remonte à 2003.
France 3.
Yves Bouvier fait la rencontre du milliardaire russe, un proche du prince Albert.
Qui a sa conviction. 23 novembre 2016.
Pendant 10 ans, Yves Bouvier lui permet de se constituer une collection exceptionnelle de tableaux et de sculptures. En tout... 38 œuvres pour la somme faramineuse de plus de 1,8 milliard d'euros. L'entente entre les deux hommes va brutalement prendre fin lors d'un rendez-vous à Monaco en février 2015. Ribolovlev aurait payé sa collection le double de son prix. Cette enquête est toujours en cours.
Regardez là ce couple qui sont habillés pas exactement comme on s'habille au ministère des anciens combattants et victimes de guerre.
Avec la boule à zéro, des robes... brillante rouge et des manteaux de fourrure de léopard.
Oui, ils sont très amusants. Enfin, ça fait partie du décor. C'est devenu le dernier salon low-cost. Il y a une certaine bourgeoisie qui s'enrichit et qui veut maintenant s'ennoblir. Elle s'ennoblit par l'achat de tableaux et elle croit accéder à une sorte de club élitiste. C'est la distinction au sens Pierre Bourdieu. Voilà.
Le capital culturel, voilà, le capital symbolique.
Absolument. C'est un mélange de sincérité et de roublardise, mais qui est matiné de deux choses. Le désir de montrer à ses amis un côté show-off, regardez mon Warhol. Et puis, l'obsession du bénéfice financier qu'on pourra faire dans 10 ans, dans 12 ans, etc. Si le marché ne s'est pas retourné, si le peintre qu'on a choisi tient toujours le parquet. Oh, regardez, c'est pas mal, c'est un petit Basquiat.
Voilà Jean-Michel Basquiat, un très beau Basquiat. Sur le stand de la galerie Van Weg.
Alors, je crois que c'est le dernier record Basquiat en vente. 110 millions, c'est acheté par un Japonais qui fait de la vente en ligne.
Oui. 110 000.
Mais alors, le record des records, c'est en mai 2017, c'est ce fonds d'investissement dont le propriétaire est Ken Griffin qui a acheté un Jackson Pollock 300 millions et un De Kooning 200 millions. Il a acheté pour un demi-milliard.
Le même jour.
Ça n'a pas de sens, 300 millions. Il y a une chose qui est... Dans la chambre à coucher de Jeff Koons, qui est un fin collectionneur,
C'est-à-dire qu'il vend ses œuvres des millions.
Alors, mais justement, son chien, il l'a vendu...
Le chien en ballon rose.
Le chien en ballon rouge, là, le Balloon Dogs orange, il en a fait 7 en couleurs différentes. Il a atteint 55 millions, 56 millions, voilà. Et qu'est-ce qu'on voit dans la chambre à coucher de Jeff Koons? On voit du Dali, du Picasso, on voit un Nicolas Poussin, excusez-moi du peu, on voit un Manet absolument splendide, on voit deux Courbets. Et un Fragonard. C'est acquisition que j'aurais pu faire pour à peu près 10 millions. Il a profité d'une cote un peu vacillante de ses grands maîtres classiques pour se faire une collection qui a une valeur muséale absolument extraordinaire, mais qui globalement ne vaut sa collection, qui est dans sa chambre à coucher, elle vaut le cinquième de son tableau de Balloon Dogs orange. Alors, est-ce que, toi, la même question
C'est-à-dire qu'un chef-d'œuvre comme Fragonard ou comme Courbet, ceux qu'on voit dans les musées,
oui. Il vaut...
Un cinquième de son œuvre.
Oui, voilà. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose de... comment dit votre ami Shakespeare, là, « There is something rotten in the state of Denmark ».
Quelque chose de pourri dans le marché de l'art, je convertis.
Non, mais écoutez, c'est, vous avez une interprétation très spécieuse. Moi, je ne me serais jamais permis de dire ça.
Splendide.
C'est
magnifique.
C'est extraordinaire.
C'est beau.
Là, ça, c'est très, très beau.
Alors, on parle de croûte avec vous. Vous nous plantez le décor, alors.
Je parle de croûte avec moi, d'accord. Ces derniers temps, dans le monde merveilleux des placements financiers, on parle très souvent d'actifs tangibles comme les œuvres d'art. Première info, les œuvres d'art, c'est beau, mais c'est aussi fiscalement intéressant. C'est-à-dire que ça rentre pas dans l'assiette taxable de votre patrimoine. En plus, le détenteur d'œuvres d'art bénéficie de règles spécifiques sur les plus-values en cas de cession. Ça, c'est magnifique. On se demande même comment ça peut encore exister. Donc, achetez-vous des croûtes, Marc.
Et ce que vous décrivez dans votre livre aussi, on est passé d'un marché de l'art à un art de marché.
Oui, c'est un peu ça. Il y a la scène de l'art et encore une fois, il y a le marché de l'art. Et ce qui quelquefois fait peur et qui est un peu terrifiant, c'est cette mainmise sur la scène artistique de toute la chaîne composée de qui ? De marchands, de galeristes, de conseillers artistiques, de musées et de sociétés d'enchères. Et chacun des maillons de cette chaîne, depuis 5, 6, 7, 8 ou 9 ans, dysfonctionne. Pour prendre un seul exemple, les sociétés d'enchères, Sotheby's, Christie, d'ailleurs ont été à un moment accusées de cartel dans les années 90. Hein. Alors elles sont puissantes, il y en a une qui est possédée à 100% par Pinault, l'autre est cotée en bourse à Wall Street, c'est Sotheby's. Et en tout cas, elles font une concurrence directe aux galeries, aux marchands classiques. Et les sociétés d'enchères, qui sont, dans le cas de Sotheby's, hyper capitalisées, ont les moyens d'organiser avant chaque vente des expositions de caractère muséal, en faisant tourner dans le monde, pour leur faire prendre la valeur, les tableaux, les œuvres qui vont être exposées. Alors, des mauvais esprits, dont je ne fais pas partie, disent que, par exemple, Pinault, qui a une grosse collection de Hearst et qu'il expose à Venise, n'est pas fâché, ayant organisé une exposition qui a coûté très très cher, de voir que la cote de Hearst remonte. Voilà, bon. Donc il y a quelque chose qui est un peu curieux.
Je ne sais pas si c'est un cercle vicieux ou un cercle vertueux.
Oui, non, pourquoi pas. Mais
c'est-à-dire qu'un milliardaire collectionneur investi dans l'art et vient pallier les défauts de budget des institutions françaises pour financer la culture, pour financer des expositions, pour financer des présentations d'œuvres, parce que les œuvres coûtent de plus en plus cher aussi, mais qui, par la même occasion, promeut son propre catalogue et augmente potentiellement la valeur de ce qu'il a lui.
Il n'y a rien à redire, c'est à 98% le cas. Ces collectionneurs propriétaires de musées privés, mécènes de l'art, qui donnent le là au goût, sont prescripteurs et les gens les suivent.
Sauf que, comme vous dites, c'est des prescripteurs. Mais c'est pas simplement pour la beauté de l'art.
Non, on est dans un monde qui marche un peu la tête à l'envers, quoi. La loi du marché, il faut la récuser, ça veut rien dire. La main invisible, elle est pas là, elle est dans notre poche.
Requins, caniches et autres mystificateurs. Le titre est mordant, mais le sujet aussi. Sous le poids des colossaux spéculationneurs, les prix deviennent stratosphériques et bousculent tout le marché et les conditions même de la création aujourd'hui. Mais à l'écart du tape-à-l'œil de beaucoup de ces artistes stars, dont on suit la cote comme les cours de la bourse, un autre secteur s'est consolidé, celui des ports francs. Entre l'entrepôt et le bunker, ces zones où les œuvres n'ont même plus besoin d'être regardées pour avoir une raison d'être. Des centaines de Picasso, de Modigliani, de Rembrandt réduites au statut de valeur, de l'art argent qui dort sous haute garde dans des coffres anonymisés à Genève, Singapour ou Luxembourg. Jean-Gabriel Freudet nous décrypte ce mécanisme, c'est splendide.
Splendide, c'est ça. Attendez.
Vous voulez recycler l'argent, vous achetez un tableau et le tableau va devenir le support d'une fiduciaire. Et la fiduciaire, c'est une société qui aura pour seul capital le ou les tableaux que vous avez achetés. Vous allez la domicilier aux Antilles néerlandaises, à Jersey, que sais-je encore. Et vous allez entreposer physiquement le tableau dans le port franc. Et là, il a l'extraterritorialité, il est dédouané, il ne paye rien. Il n'en paiera que s'il sort du port franc. Mais le port franc est devenu un endroit où on peut les acheter et les vendre. Donc le tableau, sans bouger, va pouvoir passer de main en main et naturellement sans payer un sou. Il sera totalement défiscalisé, etc.
Mais ce que vous me décrivez, c'est le paradis pour l'économie financiarisée.
C'est ce que, si vous voulez, les mauvaises langues, je n'en fais évidemment pas partie, disent que les ports francs, c'est la nouvelle forme des banques suisses.
Pour justement le blanchiment d'argent, tout comme l'évasion fiscale.
Pour ne rien payer, disons, pour ne rien payer. Et disons que la cote descendante des banques suisses a correspondu l'intérêt croissant des ports francs. On a mis de plus en plus cette fameuse monnaie parallèle qui est l'art contemporain. See what I mean?
Du coup, c'est des œuvres qui ne sont réduites à leur seule valeur, puisqu'elles n'ont plus besoin d'être vues.
Oui, mais leur valeur, si c'est un Peter Doig, elle va augmenter au fur et à mesure que la cote de Peter Doig va grimper aux ventes de Sotheby, de Philips ou de Christie. Hein. Donc elle reste immobile et le capital qu'elle représente va continuer à prendre de la valeur. Il sera détaxé, il sera invisible, il échappera à tous les impôts sur le capital possibles et imaginables.
Et on n'a aucune idée des volumes que ça représente.
Si, on dit que le plus grand musée du monde, c'est celui du port franc, qui en a pour 100 milliards.
C'est ça.
Quand l'art à l'abri des regards est plus rentable comme seule marchandise. Mais ces ports francs, vous avez compris, c'est surtout pour les gros acheteurs. Si vous êtes un peu plus modeste, Arnaud Dubois, diplômé en histoire de l'art et en gestionnaire de patrimoine artistique, peut vous conseiller dans votre investissement. Car c'est ce que dit la brochure de son Institut du patrimoine. L'art est un placement plaisir dans une optique de diversification. À moins que ça soit plaisir optique et diversification de placement. J'ai pas très bien compris. Mais en tout cas, lui, il est à la FIAC pour travailler, mais il a trouvé un moment à nous consacrer.
C'est extraordinaire.
Bonjour.
Bonjour.
Bonjour. Enchanté.
Arnaud Dubois, Cécile Colville, ma collaboratrice.
Bon, c'est bien, vous avez 5 minutes, 10
minutes.
Oui,
j'ai tout le temps du monde.
Bon, bah, c'est formidable.
Je pense que les œuvres d'art sont un actif à part entière, qu'elles sont un objet intellectuel, contemplatif incontestablement, mais quand on arrive sur des montants qui sont parfois conséquents, eh bien, de se poser la question de l'intégration de ces œuvres d'art au sein d'un patrimoine, je crois que ça peut faire sens.
Ces conséquences, ça devient conséquent à partir de combien d'après vous ?
Alors 85% du marché de l'art se fait à moins de 10 000 euros. J'ai envie de vous dire, c'est conséquent à partir de son propre budget. Vous avez 100 000 euros, vous en dépensez 200, c'est beaucoup d'argent. Et pour un grand collectionneur de ce monde, bah, ça sera très peu. Vous offrirez un petit dessin de Picasso.
Alors sans donner de détails, quelques profils du type de client que vous avez ?
Nous avons une clientèle qui est collectionneur pur, qui sont très pointus, plus spécialistes qu'on peut l'être. Et puis, nous avons d'autres types de clients qui, ont un profil un peu plus investisseur, qui considèrent ces œuvres comme un actif à part entière et qui souhaitent les revendre sous un horizon de 1 an, 2 ans, 5 ans, 10 ans, et qui nous interrogent clairement sur le potentiel à venir de ces œuvres d'art.
C'est-à-dire en termes de profit ?
En termes de profit. Un client qui mettrait 6 chiffres sur un tableau peut légitimement se poser la question de savoir s'il fait un investissement ou pas. Et notre travail consiste à les renseigner sur ces questions-là, à les éclairer. Et clairement, on se retrouve avec des clients qui sont collectionneurs-investisseurs.
Intégral Placement, l'émission 100% placement sur BFM Business. Idée de placement.
Et oui, chaque jour, on vous apporte des idées d'investissement et de placement aussi en diversifiant parce que le monde change et rien ne vous échappe dans Intégral Placement. Tiens, pour diversifier, on vous propose aussi régulièrement des œuvres d'art. C'est peut-être le moment de vous y intéresser avec la FIAC qui ouvre ses portes. On en parle avec Arnaud Dubois, responsable des placements en art moderne et contemporain de l'Institut du patrimoine. Bonjour Arnaud.
Bonjour Guillaume, bonjour Cédric.
Le marché de l'art rencontre des acquéreurs qui sont de plus en plus gourmands et qui sont de plus en plus intéressés à posséder des œuvres, parfois avides de nouveautés. Et cette nouveauté peut être déconcertante lorsqu'on la replace par rapport à une certaine histoire de l'art. Vous avez à côté un tableau de Hans Hartung de 1989 à la galerie Emmanuel Parotin. C'est un tableau qui va être présenté à la vente aux alentours de 250 000 euros. C'est beaucoup d'argent, mais pour un artiste aussi fondamental que Hans Hartung, aussi historique qu'Hans Hartung, et quand on voit...
Il y a même des timbres avec des tableaux d'Hans Hartung.
Bien sûr. Et ce qui paraît étonnant, c'est de voir des artistes jeunes, 20 ans, 25 ans, qui se revendique dans le Sartoum et qui valent plus cher qu'en Sartoum lui-même. C'est assez...
Jusqu'à combien ?
On peut avoir des pièces qui valent plus de 500 000 dollars ou 800 000 dollars sur tous ces artistes qu'on appelle des hotcakes.
Hotcakes ?
Les hotcakes, des artistes un petit peu chauds, plein de nouveautés, avec une technique assez bien huilée des galeries qui consiste à organiser la rétention des œuvres, la rareté des œuvres d'un côté et la demande de l'autre.
Là, on n'est pas loin du marketing, là.
Qu'est-ce qui n'est pas marketing à la FIAC ?
J'ai tout de suite foncé sur la galerie Le Minotaure, vraiment, avec des tutus de géants de toute beauté. Et malheureusement, une pièce déjà vendue, mais que je n'aurais de toute façon pas pu acheter, un Delaunay a tombé. Splendide. Tout était beau.
Alors j'ai fait un tout petit tour, j'ai pas eu le temps de voir beaucoup de choses, mais c'est comme chaque année, c'est beau.
Alors moi, pour l'instant, le truc que j'ai trouvé le plus sympa, c'est le stand Vache qui rit. Voilà, je vous dis, je garde le numéro 17.
Pour gagner...
Pour gagner peut-être une boîte.
Nous voilà devant un stand assez particulier dans cette FIAC. Ça ressemble un peu à une fête foraine. Alors qu'en face, il y a des Basquiat ou des Andy Warhol. Ici, là, on voit des boîtes de vaches qui rient.
Voilà, donc on a un artiste très coté, mais avec des œuvres qui sont très accessibles, hein, puisqu'elles sont au prix de 5 euros. Et le principe est de proposer chaque année aux visiteurs de la FIAC une œuvre d'art à un prix tout à fait exceptionnel qui prend la forme d'une boîte de vaches qui rient. Parce qu'il s'agit à chaque fois de trouver un équilibre entre la marque et un artiste qu'on espère à chaque fois le plus cohérent possible par rapport à la proposition. Et cette année, c'est Wim Delvoye. Fête foraine, l'idée, c'est...
Avec une roue, là.
Voilà. Alors, Wim Delvoye a vraiment joué sur l'idée de la roue, sur que la boîte était ronde. Donc, il y a associé un motif qui est récurrent dans son travail, qui est le pneu de voiture, qui est un pneu qui est présent souvent ouvragé, déstructuré, tordu dans des formes diverses et variées, jouer sur des formes sculpturales qu'il a associées là, à la boîte.
Oui. Là, vous êtes à la FIAC ici pour vendre du fromage ou pour vendre de l'art ?
Ah non, nous sommes là pour vendre de l'art. On ne serait pas invité par la FIAC si c'était une simple boîte de fromage. Et c'est de l'art.
Et donc du coup, j'imagine, puisqu'on est dans le temple du marché de l'art, il y a des gens qui vont les acheter pas pour le fromage, mais pour la valeur spéculative que peut avoir cette boîte à 5 euros aujourd'hui. Peut-être que sa cote va monter à mesure que la cote de Wim Delvoye va monter.
Tout à fait. Après, nous, on n'est pas maître de ce qui va se passer après par les spéculateurs, mais je peux vous dire que les premières boîtes sont très recherchées et
déjà,
très demandées.
Ouais. Il y a un terme qui était apparu il y a quelques années pour ces nouvelles politiques qui sont menées par des groupes, c'est le marketing.
Oui.
Le marketing par l'art, inversement.
D'accord. Alors nous, on se défend de faire du marketing, mais on pense qu'effectivement, la boîte de vache qui rit est un moyen très pratique de diffusion, d'atteindre des gens... dans un supermarché qui pas forcément ne s'intéresserait à l'art, découvrir l'art par l'intermédiaire de leur boîte. Alors effectivement, quand on est une banque, on est la Fondation Cartier, on ne va pas parler de l'art de la même manière que quand on a des marques populaires comme la Vache qui rit. Donc les réactions sont bonnes, les boîtes partent. Et alors,
c'est vrai, pendant qu'on parle, là, on voit plein de gens qui viennent.
Voilà, et donc je ne peux pas vous dire si c'est des affreux collectionneurs, de terribles spéculateurs ou de simples amateurs de fromage. En tout cas, des collectionneurs, beaucoup, puisqu'il y en a beaucoup ici, et c'est devenu un rendez-vous.
Quel média ?
France Inter.
Ah, très bien. Nous, on fait les relations presse de ça.
Ah, très bien.
Voilà. Et on s'occupe aussi de la Tate Modern, du Guggenheim, de tout ça. Vous avez eu le dossier de presse ?
Oui, j'ai pris le dossier de presse.
On vous a donné une boîte ?
Non.
Est-ce qu'on les donne normalement aux journalistes ?
Oh, ça, c'est les avantages pour les journalistes.
Fait.
Merci encore.
Et
je repars avec ma boîte de vache qui rit.
C'est un plaisir.
Édition limitée. Merci beaucoup. Et donc, on voit là, moi, j'ai ma grosse boîte avec 24 portions. Et sur chacune d'entre elles, il y a dessiné un pneu.
Et donc on peut collectionner ces étiquettes qui sont sur les portions de vache qui rit et les coller sur un album inédit, un peu à la manière des images de foot ou alors les cartes qu'on était à l'école. Donc voilà.
Boîte collecteur numéro 4, Wim Delvoye. Art is everything that can be collected. L'art est tout ce qui peut être collectionné, y compris voilà. Donc une boîte de fromage.
Tout à fait.
C'est ça. Mais ce que vous dites, c'est vieux comme le monde, effectivement. Oui. Ceux qui veulent acheter de l'art pour l'art, mais ceux qui veulent acheter de l'art pour l'apparence, pour le statut ou pour l'investissement. Simplement que maintenant, notre époque étant ce qu'elle est, c'est-à-dire l'époque du capitalisme globalisé et de l'économie financiarisée, on est passé à un stade au-dessus, quoi. Ça s'est adapté.
Tout à fait. Mais le capitalisme pur et parfait, avec cette soi-disant main invisible du marché qui adapte l'offre à la demande, il est sujet à tous les tressaillements du marché. Quand tout va bien, les prix prennent l'ascenseur, à la moindre inquiétude politico-économique, ils peuvent aussi s'écraser. C'est le risque, c'est une société de risque absolu.
Et les acheteurs sont souvent des capital risqueurs, justement.
Bien sûr, tout à fait. Vous avez un art advisor, vous avez un banquier qui vous dit bah, diversifiez vos avoirs, vous avez un patrimoine intéressant. Alors qu'est-ce que je dois acheter? Du foncier, mais bah, j'ai déjà 3 immeubles, un jet privé, j'en ai déjà un yacht, c'est fait, etc., etc. Des actions, oui, en ce moment, elles sont au pinacle. Bah, dans ce cas-là, acheter de l'art contemporain, il surperforme, c'est-à-dire que sur une très courte période, il rapporte plus qu'une action de General Electric ou d'Air Liquide. Donc, voilà, ça donne immédiatement une valeur extraordinaire.
C'est-à-dire que le businessman et l'artiste se confondent.
Oui, c'est des nouveaux profils. C'est l'artiste moderne, le fils illégitime de Duchamp, de Picasso et de Kuntz, il va faire affaire avec un autre hybride, ça va être le milliardaire de la côte ouest, le fils adultérin d'Hollywood et puis de la société digitale. C'est des profils nouveaux, c'est intéressant, ça, c'est comme ça que ça fonctionne, hein. Plus dur sera la chute. Ah, ça, non, mais je veux dire, ce sont des cycles. L'idée, tous ces spécialistes de l'économie qui disent qu'on a inventé un modèle contracyclique, ça n'existe pas.
Il y a toujours des crises.
Non, mais l'euphorie des ventes porte en elle-même son germe de mort. Il y aura toujours des retournements parce qu'il y a des excès. Et quand une valeur atteint son plafond en bourse, il ne faut surtout pas acheter. C'est qu'elle est survendue et
elle va bientôt dévisser.
Voilà, et on l'achèteront au pire moment les gens comme vous et moi. Enfin, surtout comme moi.
Les gogos.
Je suis une artiste engagée parce que le monde il est ghetto. Je prends du papier recyclé parce que moi je suis écolo. Je prends en photo mon vomi, j'enregistre mes gargouillis. J'ai ma carte pour Beaubourg, je fais des workshops à Cherbourg. Je mets le monde au microscope, je me cultive, je lis Pariscope. Je garde le sang de mes ragnagnas, je reproduis tous les deux gars. Je bois de l'accro, je fume des pétards, j'ai moi Roll et Big Viola. Je suis constamment en retard, je suis étudiant aux Beaux-Arts.
Nous qui cherchons quelque chose de discret pour un petit appartement parisien, on a envie de craquer.
Moi je kiffe l'art,
c'est beau.
Contemporain,
extraordinaire.
Je suis bizarre et je suis content pour rien. Moi je kiffe l'art, contemporain, je suis connard mondain.
Ces artistes qui font du bien, et c'est eux-mêmes qui sont marchandises.
Champagne et des petits fours, pain de campagne et calembour, vernissage chez Perrotin, y'a des cubis, des pots de vin, y'a des critiques et mes potes, l'accrochage est polyglotte, plasticien polyvalent, parce que moi j'ai trop de talent, je crée du lien entre les choses, je performe à l'Héléros, j'ai exposé à Versailles, mes sculptures faites de gousses d'ail, j'ai craché dans ton white cube, in situ à l'état pur, je finirai par faire de la pub et du graphisme en voiture.
Alors Give, si j'ai bien compris, maintenant que tu as toi-même commencé une petite collection avec ta boîte de vaches Kiri, tu vas attendre que la cote monte et si tu as fait un bon placement, tu pourras devenir un collectionneur investisseur.
Ouais, enfin je suis surtout un très mauvais investisseur parce que j'avoue, j'ai entamé mon œuvre d'art ce matin et j'ai commencé à manger une vache Kiri.
Non.
En tout cas, il y en a un qui n'est peut-être pas corrompu, c'est Jean-Gabriel Frodet, requin, caniche et autres mystificateurs. C'est chez Albin Michel et un autre livre à vous conseiller sur le même sujet, mais dans un autre genre, c'est L'art et l'argent de Nathalie Quintane et Jean-Pierre Cometti aux éditions Amsterdam.
Est-ce que vous entendez là ? Ça n'est pas une performance d'art moderne, c'est une performance du maintien de l'ordre à la française. C'est le son des grenades à Sivens en 2014 et Antoine, tu y étais.
Oui, on part pour une balade, un brin bucolique au premier abord, après ça se gâte. Je vous emmène sur le bord du Tescou, on peut y voir des couples de martins pêcheurs, enfin on pouvait, et y entendre en même temps les tronçonneuses qui détruisent cette jolie zone humide du Testet dans le Tarn. Quelques tirs de grenades aussi viennent égayer le paysage pour protéger le chantier qui le détruit, le chantier du barrage contesté, le barrage du Testet. C'était il y a 3 ans, et pour préserver ce petit bout de nature, Rémi Fraisse a perdu la vie, tué sur le coup par une grenade dite offensive lancée par les gendarmes mobiles. Il avait 21 ans, étudiait la botanique et contestait la destruction de cet écosystème naturel. Des grenades offensives pour assurer le maintien de l'ordre, ça fait plutôt désordre. On n'est pas en guerre quand même. Mais la France est le seul pays européen à utiliser des munitions explosives en opération de maintien de l'ordre. Alors pour rendre hommage à Rémi, on va retourner sur place à Sivens, nous y étions en 2014, et place de la République aussi à Paris, où un rassemblement non violent a eu lieu jeudi dernier.
Grenade. Grenade, qui es-tu ? Grenade, que fais-tu ?
Pour toi, Rémi.
Grenade, qui tue ?
J'ai porté sur le site, là où se tenaient les gendarmes, qui ont lancé la grenade qui t'a tué, un aquarium avec un petit poisson rouge.
Rémi, quoi, c'est un drame, quoi. Mais c'est un drame aussi quand un jeune homme de 21 ans, quoi, perd la vie.
Argent, qui tue, est.
Il aura fallu la mort de Rémi Fraisse, il aura fallu de nombreux blessés parmi les opposants, le saccage de cette zone humide, notamment du fait de l'obstination du gouvernement Valls, pour qu'enfin on puisse obtenir ce qu'on voulait, c'est-à-dire simplement un dialogue, une discussion sur le fond.
Rémi, que fais-tu ? Nature qui nous tue.
Alors ça, c'est de la bouillonnante.
Comme un bruit qui court, 6 septembre 2014.
C'est ce campement, il y a un petit chapiteau et il y a une trentaine de tentes autour. Là, c'est le camp avancé, quoi. Donc c'est juste au bord de la parcelle qui est en train d'être déboisée. On entend les tronçonneuses de loin. C'est ici que la résistance s'organise. Hein. On est tout près du chantier. Ah oui, d'accord. Donc il y a une barricade en feu là-bas. Il y a une barricade en feu, hein, c'est ça. Il y a le cordon de gendarmes qui est juste derrière. C'est ça, il y a quand même une petite équipe là, de résistants là, qui leur rebalance des trucs. Ils rebalancent les lacrymos, en fait, voilà. Et là, il y a deux caddies avec un sommier pour pouvoir s'approcher du cordon. Ah, ça y va, là, ouais. Heureusement, on a le vent avec nous, donc les lacrymos partent dans l'autre sens. On peut s'approcher quand même. Casque, le vent tourne et là il faudra partir.
Il y a des messieurs casqués, cachés derrière des grands boucliers, qui avancent et puis qui lancent des trucs qui font de la fumée. Ils ont l'air très énervés. On se demande pourquoi.
Ah, c'est étonnant, ouais.
Voilà, et j'ai dit, j'étais avec quelques jeunes là, j'ai dit, mais je pense qu'ils tireront pas sur une vieille dame handicapée. Ils m'ont dit que ça servait à rien, qu'il valait mieux que je me range. Donc je me range, voilà.
Et vous êtes venu faire quoi ici alors ?
Je suis venu pour voir ce qui se passait. Enfin, je veux dire que c'est une forêt dans laquelle je me promène souvent. C'est lamentable qu'on détruise une forêt comme ça, et tout ça avec nos impôts, en prime. On sait très bien que de toute manière, ce sont derrière le Conseil Général qui fait
plaisir
à ses copains.
Il faut avancer là, parce que là, ça y est, on est sous les lacrymogènes.
Ça commence à piquer bien fort.
Ouais. Il y a du lacrymo de toutes parts.
Comme un bruit qui court depuis les barricades de la forêt de Sivens, Tarn 2014, ZAD du testé.
Mais il y a une ZAD au testé. Ramène tes outils, tes amis. Alors ils croient qu'on va pas passer l'hiver. Hein. Pas de barrage de Sivens. Pas de ligne à grande vitesse, Lyon-Turin. Comme un bruit qui... Pas d'usine des mille vaches. Pas d'aéroport à Notre-Dame-des-Landes. Tu connais Gaillac, Albi, Montauban, vallée de la Vère, vallée du Descoux, vallée du Tarn, toutes les vallées solidaires. Pas de barrage de Sivens. On est prêt à se battre contre les grands projets inutiles. Désobéissance légitime. Comme la communauté mapuche opposée au barrage de Ralco au Chili. Pas testé, Lazard au testé. Barricade au testé, pas de barrage au Descoux. 13 hectares à sauver, en mode ZAD partout. Viens te faire ta cabane, viens caillasser sur nous. J'en repars en croisade, ici c'est Albi, c'est Hoche. À Castelnau, Montmiral, comme à Notre-Dame-des-Landes. Y'en a sous le poitrail et on sait faire des planques. Des arbres et du humus, des espèces en danger. Y'a la princesse à sauver que l'on appelle forêt. Va te faire un barrage sur ta Seine ou ta Marne. On garde nos bocages et pour eux on s'acharne. Notre lutte est pensive, c'est la permaculture. L'agriculture intensive appartient à l'histoire. Viens pas test, 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 la ZAD au testé. Qu'on soit 10 ou 10 000 100 000, y'a pas test, 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 la ZAD au testé. Ton grand projet inutile va se faire contester. Coûte que coûte, on goûte à goûte, pas démonter tout ça. On obéit à nos valeurs et on bâtit de nos bras. On boycotte, on ruse et à l'occasion, on leur fout le terroir.
Il y a les martins pêcheurs, il y a deux couples de martins pêcheurs ici sur...
Le fameux Tescou, bah ouais. c'est un ruisseau quoi.
Ouais, c'est vraiment un petit ruisseau. On se demande même comment ils vont réussir à alimenter quoi, hein, à alimenter le barrage quoi, hein, parce que il y a eu un barrage qui a été fait pas loin, là, sur le Tescounet. Ça fait 3 ans, ils n'arrivent pas à le remplir encore. Quoi. Ils n'arrivent pas à le remplir.
Et vous, vous êtes alors, vous représentez quoi ?
Le collectif du Testé, quoi. Voilà, moi, je suis naturaliste. Ouais. Il y a 49 espèces d'oiseaux ici qui sont protégées. Et ces oiseaux-là, quoi, eh ben, on ne les verra plus, comme le pic, le torcol, quoi, tout ça. Quoi. Les différents pics qu'il y a. Quoi. Bon, c'est vrai que les oiseaux, ils peuvent partir. Mais par exemple, tous les reptiles, tous les insectes qui sont inféodés à ces milieux humides, les plantes aussi, comme les carex, ici. Voilà, quoi, tout ça va disparaître.
Et là, il y a quelques militants là, qui sont perchés hein, dans les arbres. Hein, là,
oui, oui, oui.
Ils essayent de limiter la casse, la coupe.
Parce que leurs copains m'ont demandé justement de m'avancer pour voir.
Ils sont combien là? Ils sont un paquet, hein, les gendarmes là. Ouais.
Oui, oui, oui. Ben, hier, ils étaient. Ben, je sais qu'il y avait un peloton de 180 et plus les gendarmes et les brigades environnantes, quoi.
Christian Conrad, on s'était rencontré hein, en septembre 2014 sur les bords du Tescou. C'était juste avant donc la mort de Rémi Fraisse, ça fait 3 ans maintenant. Vous avez un mot à dire pour Rémi Fraisse qui était futur naturaliste comme vous l'êtes vous aujourd'hui ?
Oui, pour nous et pour moi aussi parce que je l'avais rencontré 2 fois. Rémi, quoi, c'est un drame, quoi. Mais c'est un drame aussi quand... un jeune homme de 21 ans, quoi, perd la vie. Perd la vie. Rémi, ben déjà, il était là parce que c'était un protecteur de la nature. Quoi. C'était aussi un futur botaniste. Moi, je l'avais rencontré, il était venu dans une des nombreuses sorties que j'avais faites sur la zone pour expliquer le fonctionnement de la zone humide. Ça. Puis après, il est passé le 25... le jour fatidique où il a perdu la vie. Il est passé au stand de notre association et il m'a dit bonjour à la cantonade, quoi. C'est tout, voilà, quoi. Donc, mais pour nous ici, c'est vraiment un drame, quoi.
Et un drame qui aurait pu être évité parce que ce barrage, ce projet de barrage était illégal, c'est ça ?
Oui, 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 oui. D'ailleurs, l'an dernier, le tribunal administratif de Toulouse a annulé en fait tous les arrêtés hein, de la DIG, de la DUP, l'arrêté aussi de déboisement, l'arrêté aussi de la destruction de la faune et de la flore protégée. Quoi. Puis ça avait été quand même un petit peu avant le drame dénoncé aussi par les experts qui étaient venus et qui avait en fait trouvé, je dirais, des vices de forme dans l'ensemble du projet et puis du dossier, quoi. Donc, on est très amer, même encore, quoi. Hein, même encore. Donc là, on a un site d'une 40aine d'hectares hein, qui ont été détruits. La zone humide, elle représentait 14 hectares plus 2,5 hectares qui sont détruits illégalement en aval. Et là, viennent d'être réhabilités une partie qui couvre moins de 10 hectares.
Et Christian Conrad, vous vous souvenez de cette journée où on s'est retrouvés?
Ah oui,
au bord du Tescou.
Ça, quoi, parce que c'était une période qui était difficile pour nous, quoi. Et quand on s'est rencontrés, on était dans le cœur et dans l'endroit qui était le plus riche de la zone humide, quoi. Hein, parce que je sais pas si vous vous souvenez, on avait les pieds à la boue. Moi, je voulais passer de l'autre côté parce que on m'avait dit que je regarde l'avancée des travaux, quoi, tout ça. Et puis, je savais aussi qu'il y avait des zadistes qui étaient sur les arbres et je voulais avoir des nouvelles. Donc, j'avais commencé à parlementer avec les gardes mobiles qui étaient là, quoi. Et à un moment donné, ils se sont énervés. Ils m'ont dit que je dégage de là. Puis, je vous ai vu sortir comme dans un film de derrière le fourré. Je crois que vous aviez un magnétophone, quoi, ce moment-là. Et puis après, il y avait les tronçonneuses, quoi, tout ça. Puis après, on a entendu des grenades et on est parti un peu plus loin où ça bardait, quoi, et se séparer là, quoi.
C'est la presse.
C'est la presse, c'est la presse. C'est la presse, c'est la presse.
France Inter, comme un bruit qui court. Alors, il y a les bûcherons qui sont là. Il y a un énorme engin qui vient d'arriver. Une broyeuse. Donc ça broie tout le sous-bois, tout ce qui fait moins d'une dizaine de mètres. Ça détruit tout sur son passage, quoi. Et il y a les militants là qui sont perchés dans les arbres, qui les interpellent au passage. Et là, c'est une belle cabane hein, que vous avez fabriquée là. Et vous êtes tout seul là-haut? Ah super.
Et on milite pour défendre la forêt. On demande juste que tout ça soit remis en cause. On demande juste que les gens discutent. On avait demandé au mois de mars un moratoire, on avait demandé un référendum, on avait demandé que la population soit au courant et que le projet de l'institut soit remis en cause.
Nous on construit, vous vous détruisez. Vous êtes les petits soldats de la mort.
La grenade a bien explosé dans le dos de Rémi Fraisse, mais selon des sources proches de l'enquête, ce serait bien de face que cette grenade aurait été tirée. Le gendarme l'aurait lancée à la main, en cloche, de nuit, au jugé, après en avoir reçu l'ordre.
Bonjour. Je suis poète. Pour toi, Rémi, j'ai porté sur le site, là où se tenaient les gendarmes, qui ont lancé la grenade qui t'a tué, un aquarium avec un petit poisson rouge.
Je suis Ben Lefeuté, je suis un des porte-parole du collectif pour la sauvegarde de la zone humide du Testé, donc ce collectif d'association qui, depuis 2011, s'est mobilisé pour sauver cette zone humide qui était menacée donc par le barrage de Sivens. Moi, ce qui me met en colère encore aujourd'hui, c'est de voir que 3 ans après la mort de Rémi Fraisse, les élus, que ce soit au niveau local, mais y compris au niveau national, n'ont pas tiré les leçons, puisqu'on voit que des grenades continuent à être utilisées en maintien de l'ordre avec des matières explosives, comme on a vu à Bure cet été, avec un blessé grave. Ce qui a été annoncé par la justice pour l'instant, c'est la volonté d'aller vers un non-lieu dans l'enquête sur la mort de Rémi Fraisse. La décision n'a pas été prononcée jusqu'à présent, on l'attend d'ici la fin de l'année, et malheureusement ça veut dire qu'il sera considéré par la justice qu'il n'y a aucun responsable, aucun coupable dans la mort de Rémi Fraisse. Le samedi 25 octobre 2014, nous avions effectivement tous les opposants au barrage de Sivens invité la population, et donc des gens étaient venus de très loin, on était à peu près 6-7 000 personnes à venir débattre de ce genre de projet, ici à Sivens mais aussi ailleurs. C'était vraiment un moment pacifique qui devait le rester, et malheureusement les autorités ont tout fait pour qu'il y ait, on va dire, de la provocation, puisque à 1 kilomètre de là, sur le site du chantier, ils ont laissé un Algeco et un groupe électrogène avec des vigiles qui a été le point de fixation, qui a été le début d'affrontement dans la nuit du vendredi au samedi, ce qui a permis à la préfecture d'envoyer des forces de l'ordre sur place pendant tout le week-end, contrairement à ce qu'elle s'était engagée à faire. Et donc, il aura fallu la mort de Rémi Fraisse, il aura fallu de nombreux blessés parmi les opposants, le saccage de cette zone humide, un traumatisme vraiment important dans la population locale. Il aura fallu passer par tout ça, notamment du fait de l'obstination du gouvernement Valls, pour qu'enfin on puisse obtenir ce qu'on voulait, c'est-à-dire simplement un dialogue, une discussion sur le fond, sur les différentes solutions possibles pour bien préserver l'eau, les milieux naturels, mais aussi aider l'agriculture à vivre sur ce territoire. Et donc c'était un prix très cher à payer, et on est d'autant plus amer que... Entre-temps, ceux qui ont commis en fait tous ces dégâts, hein, humains et écologiques, ont été dédommagés par l'argent du contribuable, puisque le département a reçu des millions d'euros de l'État pour dédommager les frais engagés sur le premier projet de barrage. Le département donc a dédommagé lui-même les entreprises, y compris le constructeur de barrage qui avait fait des études bidons. Donc tous ces gens ont été dédommagés. Du côté des opposants, certains continuent à devoir payer des amendes et des frais de justice au département. Les responsables de la mort d'Rémi Fraisse ne sont toujours pas identifiés. Donc vous voyez qu'on est face à une injustice totale dans cette affaire, puisque le tribunal administratif a reconnu que nous avions raison, que ce projet était bien illégal, n'était pas d'intérêt général, d'utilité publique, a annulé donc tous les arrêtés de l'État de ce point de vue-là. Et malgré tout, c'est encore nous qui devons continuer à être les parias sur ce territoire et à devoir rendre des comptes. Des gens ont toujours des peines de prison avec sursis sur la tête, et avec un sentiment de colère et d'injustice très fort.
Rémi, tu es mort pourquoi ?
Comme un bruit qui court depuis la forêt de Sivens.
Tout a été broyé, c'est ici qu'est tombé Rémi Fraisse. Et il y a un petit mémorial, un cercueil en carton.
Comme un bruit qui court, 8 novembre 2014.
Qui a été posé là, Rémi 1993-2014, ZAD du Testet, avec des fleurs posées dessus, des bougies, et des petits mots qui ont été accrochés à un grillage.
pour protéger justement l'endroit où Rémi est tombé. Et on voit les traces de sang là sur ce bout de terre jaune qui est à nu, sur laquelle est tombé Rémi. Il y a plein de mots. Une colombe s'envole, mais le combat perdurera. Frère, triple homicide, Rémi, écologie, démocratie. Ni oubli, ni pardon, à Rémi, une mère indignée, le testait. Et à côté du cercueil, il y a toute une série de bombes lacrymogènes, grenades, qui ont été lancées par les forces de l'ordre. Honte à cette violence faite aux jeunes opposants au barrage de Sivens. Voilà, c'est ce qui a été inscrit sur cette bombe.
Grenade. Grenade, qui es-tu? Grenade, que fais-tu? Grenade, qui tue? Argent, qui es-tu? Argent, que fais-tu? Argent, qui tue, est. Vital, qui es-tu? Rémi, que fais-tu? Nature, qui nous tue.
Jeudi 26 octobre 2017, 19h30, rassemblement en hommage à Rémi Fraisse. Voilà 3 ans que Rémi Fraisse, jeune homme de 21 ans, a été tué par la grenade offensive d'un gendarme mobile lors d'une manifestation contre le barrage de Sivens, dans le Tarn. La France est le seul pays européen à utiliser des munitions explosives en opération de maintien de l'ordre.
Bonsoir. Une manifestation en mémoire de Rémi Fraisse ce soir à Paris, place de la République. Le jeune militant écologiste est mort il y a 3 ans, jour pour jour, tué par une grenade tirée par un gendarme à Sivens dans le Tarn.
Alors, il y a un petit face-à-face entre les manifestants, là, le rassemblement, et les forces de l'ordre qui sont là autour de la place de la République. Et une banderole a été déroulée. Rémi Fraisse, on ne t'oublie pas.
On va demander un tout petit peu de silence pour qu'un mâle lise la lettre transmise par le papa de Rémi Fraisse.
Vital Michalon a été assassiné en 1977 par une grenade offensive au F1, la même que Rémi est interdite aujourd'hui. Lors d'une manifestation contre Super Phoenix, scandale financier, technologique et environnemental, puisse cette manifestation et ce petit poème contribuer à rétablir sa mémoire. Je n'oublie pas Malik Oussekine, assassiné en 1986 par des policiers à moto, ni les centaines d'Algériens noyés dans la Seine en octobre 1961 par les policiers, de Maurice Papon. Ni Amin Bentounsi et Adama Traoré et tous les autres lâchement assassinés d'une balle dans le dos et l'autre par étouffement, et dont je salue les sœurs qui consacrent leur vie à la cause. L'État français tue, il tue même près d'une personne par mois, qui le sait. Nous réaffirmons notre attachement à la non-violence. Nous dénonçons les manipulations qui voudraient faire croire que des grenades offensives puissent devenir défensives. Nous alertons sur l'augmentation des charges explosives et donc sur l'instrumentalisation toujours renouvelée des grenades par l'État français contre son peuple. Jean-Pierre Fraisse. Une lettre du papa de Rémi Fraisse qui me l'a transmise par mail ce matin. Et donc voilà, merci beaucoup. Et pour moi, c'est important.
Pas de justice, pas de paix. Pas de justice, pas de paix. Pas de justice, pas de paix. Pas de justice, pas de paix.
Et pas de justice,
pas de paix.
Et pas de justice,
pas de paix.
Et pas de justice,
pas de paix.
Pas de justice,
pas de paix.
Pas de justice.
Merci à Amal Bentounsi qui a relayé la parole de la famille de Rémi Fraisse, à Robin, grièvement blessé à Bure cet été, qui a aussi envoyé un texte à faire lire pendant le rassemblement pacifique de jeudi derrière la banderole « Rémi, nous ne t'oublions pas ».
C'était Comme un bruit qui court. Toutes les informations sont sur le site de France Inter, franceinter.fr. Abonnez-vous au podcast, faites courir le bruit sur les réseaux sociaux et que le bruit court. Juste après les infos, retrouvez Daniel Morin et nous on se retrouve samedi prochain à 16h.